On va reprendre le début du Pérec d'Alet. Pérec d'Alet, donc on est dans le quatrième chapitre de Guéret Hatchouva, page 186. Donc je vais juste faire un petit point très rapide, en 2-3 minutes, où on en est. Dans les trois premiers chapitres de Guéret Hatchouva, la Gemara Zaken a expliqué le concept de la Tchouva selon la partie niglée de la Torah. C'est-à-dire selon la partie dévoilée de la Torah. Ça veut dire qu'est-ce que c'est l'essence de la Tchouva, en page 186. Qu'est-ce que c'est l'essence de la Teshuvah? On a expliqué que l'essence de la Teshuvah, c'est uniquement le fait de décider de ne plus refauter. Et dans le chapitre 2 et 3, Perek Bet et Perek Gimel, on a expliqué longuement qu'une fois qu'une personne avait fait Teshuvah, c'est-à-dire qu'elle avait décidé de ne plus recommencer, ensuite venait la phase du jeûne, etc. Donc la phase du bouc, comment on l'appelait, la phase du bouquet de fleurs, dans laquelle on demande à Kadosh Baruch Hu que, bien qu'on sait que puisque on a fait Teshuvah, il va plus nous en reparler, mais on aimerait réparer les dégâts qu'on a causés. Et donc ça, c'est, à l'époque, c'était avec les sacrifices, après c'était avec les jeûnes, et aujourd'hui c'est par la tzedaka. C'est ce qu'on a expliqué dans le chapitre 2 et chapitre 3. Donc avec ça, avec le chapitre 1 et 2 et 3, on a expliqué, on a fait le tour.
Et avant, ça marchait pas la tzedaka.
Si. Mais avant on prenait le top c'était le corban c'était le top, c'était ce qui était prévu, après c'est les jeunes, et maintenant qu'on a plus les jeunes, parce que bon, c'est on fatigue trop, donc il y a la tzedaka.
Le corban était une forme de tzedaka quelque part.
Bon, on peut voir ça comme ça, ouais. Mais bon, c'était différent. Donc ça c'était le chapitre 1, 2 et 3, c'est, on va dire, on a fait un tour rapide, d'accord, halakhique, on va appeler ça, donc selon dans la partie dévoilée, dans la partie niglée de la Torah, pour expliquer qu'est-ce que c'est la teshuvah. Qu'est-ce que c'est l'essence de la Teshuvah? Comment on fait Teshuvah? Ok. Maintenant, le grand problème, c'est que même si on a expliqué halakhiquement et techniquement comment ça se passe, maintenant on sait bien que, bien qu'on a expliqué que techniquement Teshuvah, ça veut dire décider de ne plus refauter, on sait bien que dans les faits, d'abord c'est très difficile d'avoir une décision sincère comme ça. Et même si on a une décision sincère comme ça, on voit bien qu'on recommence après. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans la décision. D'accord? Je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait Teshuvah, mais ça veut dire qu'il y a un problème dans la décision, que la décision a mal été prise. Donc d'où l'importance du chapitre suivant. D'où l'importance du chapitre suivant, à partir du chapitre 4. Là, la Gemara Zaken va expliquer que pour comprendre qu'est-ce que c'est une faute, d'accord? Parce que c'est quoi notre problème? C'est que quand on fait teshuvah sur une faute. Donc pour comprendre l'impact d'une faute, il faut d'abord comprendre quel est le lien entre un juif et Dieu. D'accord? Quel est le lien entre un juif et Dieu? Une fois qu'on a compris quel est le lien entre un juif et Dieu, ensuite, on va expliquer comment ce lien va être abîmé avec une avéra. Et ensuite, on va expliquer comment, au travers de la Teshuvah, on peut réparer ce lien. Bon, après, on expliquera différents aspects de la Teshuvah, comment on doit être Bessimra quand on fait Teshuvah. Mais là, en tout cas, les quelques semaines qui vont suivre, on va essayer de se focaliser sur l'aspect profond de la Teshuvah. C'est-à-dire, on va d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le lien entre un juif et Dieu, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, comment ce lien s'abîme, quand Dieu préserve, on fait une avéra. D'accord? Ça, c'est pour nous expliquer qu'est-ce que c'est une avéra. Et vous comprenez que grâce à ça, on aura plus de facilité à faire teshuvah. Est-ce que c'est clair juste ici? Pas de question? Est-ce que c'est clair? Parce que si on n'a pas compris ça, on peut pas avancer. Parce que je répète encore une fois. Pas grave, si vous venez d'arriver, vous avez encore la tête dans le repas, vous venez de manger.
Tout le monde a compris.
D'accord? Je répète encore 30 secondes?
Bon, c'est bon.
D'accord?
C'est une bombe, putain, oui, une bombe.
Est-ce que c'est clair? C'est clair? N'hésitez pas, si c'est pas clair, faut me le dire, c'est pas grave. Je préfère passer une minute maintenant que que perdre une heure.
C'est clair.
Voilà, c'est quitté là. Est-ce que c'est clair?
C'est l'entraînement qui est pas clair.
Alors, encore une fois, c'est vrai que je vais répéter.
Parce que la semaine dernière, on est arrivé à un point important par rapport, je crois, voilà. à pourquoi il y en a qui vivent jusqu'à et qui meurent pas, etc.
Justement, très bien, on va y arriver. Voilà. Donc, on a expliqué, dans le chapitre 1 à 3, chapitre Perek Aleph à Perek Gimel, on a fait le tour sur le sens de la Teshuvah. C'est quoi le sens profond de la Teshuvah, on a dit? Faire Teshuvah, ça veut dire décider de ne plus recommencer. Bon. Le problème, c'est quoi? C'est que cette décision, elle est très dure à prendre. Et que même si halakhiquement, vous savez, des fois dans la halakha, on te dit, c'est ça la mitzvah. Bon, tu lis la halakha, t'as l'impression que c'est facile. Et quand on voit qu'on le fait chaque année, on le fait chaque jour, trois fois par jour, slach lanou, on comprend que c'est pas facile. Puisque c'est pas facile, donc il faut essayer d'aller chercher un peu plus loin. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire une teshuvah sincère à 100%? Ouais. Pour comprendre pourquoi on fait pas une teshuvah sincère, ça veut dire, si on fait pas une teshuvah sincère, ça veut dire qu'on s'imagine le lien qu'il y a entre Dieu et nous, comme un lien qu'il y a entre deux hommes. Quand on a entre deux hommes, je dis bon, j'ai blessé quelqu'un, je lui dis pardon, Bon, je peux pas m'engager jusqu'à la fin de mes jours. Je te dis pardon, j'essaierai de te recommencer. Bah, si je recommençais, je te redemanderai pardon. Le problème qu'on a, c'est qu'encore une fois, on analyse le lien qu'il y a entre nous et Dieu, entre Dieu et nous, comme si c'était entre deux hommes. Donc d'où, c'est pour ça que toute la teshuvah est faussée. On a du mal à faire teshuvah puisqu'on voilà. comprend pas le lien. Donc voilà pourquoi on a suffisamment de choses. Voilà. Ah, je passe, d'accord. Donc voilà pourquoi le chapitre Perek Dalet est très important. Pourquoi? Puisque c'est là justement qu'on va poser les jalons, on va expliquer que c'est pas du tout comme ça. Que le lien qu'il y a entre un juif et Dieu, c'est carrément autre chose. D'accord? On va expliquer d'abord quelle est l'essence du lien entre un juif et Dieu. Rien à voir avec la Avera. Quelle est l'essence du lien entre un juif et Dieu? Quel est le vecteur du lien entre un juif et Dieu? Une fois qu'on aura compris ça, après seulement on pourra comprendre comment ce vecteur va être coupé ou comment ce vecteur va être affecté lorsqu'on va faire une Avera. Et c'est seulement lorsqu'on aura compris ces deux éléments qu'on comprendra pourquoi on doit faire teshuvah et comment on doit faire teshuvah. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on perd notre temps.
Est-ce que c'est pas justement parce que ce lien est trop fort des fois? Parce qu'on prend un engagement vis-à-vis de Dieu.
Très bien.
Vis-à-vis d'un homme, on peut prendre peut-être des engagements en se disant, allez, je prends un engagement. On se dit, si un jour je viens à transgresser cet engagement, peut-être vis-à-vis de cet homme, c'est pas très grave. Alors que vis-à-vis de Dieu, peut-être qu'on se dit, un engagement, c'est trop fort à prendre.
Très bien. Donc toi, tu dis, direct, dès le départ, je lâche.
Non, pas je lâche. L'engagement est tellement fort je préfère prendre un engagement moins fort. Je suis sûr de pouvoir appliquer.
C'est pour ça qu'on va essayer de le développer ensemble. On va développer ensemble, on va voir, d'une manière que tout le monde peut comprendre. Quel est le lien entre un juif et Dieu, d'accord? Quel est le lien entre un juif et Dieu? Comment ce lien est affecté quand on fait une avéra? Et comment on peut le réparer? C'est-à-dire que tant qu'on comprend pas les rouages du système, maintenant on va essayer de comprendre les rouages du système. C'est ça le problème. Tant qu'on comprend pas les rouages du système, bon, on croit juste, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai fait quelque chose, non, je vais appuyer sur un autre bouton. Tu dis, non, c'est pas le bouton. Maintenant on va comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu appuies sur le bouton. D'accord, donc d'abord maintenant on va ouvrir la machine. Qu'est-ce qu'il y a dans la machine? Qu'est-ce qui fait le lien entre un juif et Dieu? Après on va comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton mitzvah, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton avera, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait une avera, comment je peux réparer le rouage à l'intérieur, et comment quand j'appuie sur le bouton teshuva, ça répare le rouage à l'intérieur. Comment j'appuie sur un bouton, ça répare? C'est-à-dire qu'on va devoir comprendre la mécanique qu'il y a derrière tout ça. D'accord, Yann, c'est sportif? Ah. Vous allez nous aider alors, hein? La mécanique. Bon. On a déjà fait le début du Perek Guimel. On est arrivé jusqu'à où?
On n'est pas chapitre. Hein.
Perek Dalet, pardon. Ouais. On est arrivé jusqu'à Achaïnia Nuvan. D'accord? Achaïnia Nuvan. On est arrivé à 4 lignes en bas de la fin de la page 186. Alors, on a commencé avec des questions. On s'est arrêté la semaine dernière sur des questions. On a ramené d'abord ce que le Zohar explique. Donc rappelez-vous, maintenant on essaie de comprendre les rouages. On va commencer par poser des questions. Première question, on a dit, le Zohar explique qu'est-ce que c'est la Teshuvah. Le Zohar a dit que pour comprendre ce que c'est la Teshuvah, il faut décomposer le mot Teshuvah en deux. Teshuvah est égal à Tashuv, He. C'est le He qui retourne. Alors le Zohar nous rajoute encore quelques détails, mais bon, ça nous avance pas grand-chose. Le Zohar dit, sache qu'il y a le He d'en bas et le He d'en haut. Et les deux, ils retournent. Bon. Alors là, on n'a pas encore ouvert la machine, mais on sait qu'à l'intérieur, il y a un He d'en haut, un He d'en bas, et que les deux, ils doivent retourner. Ça, c'est un premier point que le Zohar, il explique. D'accord? Donc, on aimerait comprendre qu'est-ce que c'est le hé d'en haut, qu'est-ce que c'est le hé d'en bas et comment il retourne. Je dis pas qu'on sera à ce niveau, mais au moins comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand on comprend, c'est plus facile. Ça, c'est un premier point. Première question qu'on a posée. Deuxième question qu'on a posée, on a dit, a priori, on a une contradiction. D'un côté, dans le Zohar, on nous dit qu'il y a certaines avérotes sur lesquelles on ne peut jamais faire teshuvah. Par exemple, quelle avéra on a dit? La vera de celui qui est pogem zaro, ça veut dire celui qui a de la semence en vain volontaire. Ça, le Zohar dit que personne comme ça ne peut pas faire teshuvah. Alors là, Admor HaZaken pose la question, il dit, mais a priori, on sait très bien qu'il n'y a rien qui peut retenir la teshuvah. Et que même sur une avera comme Avodazara, ou l'adultère, ou le meurtre, on peut toujours faire teshuvah. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand le Zohar nous dit qu'il n'y a pas de teshuvah? Alors le Régis Rochman a expliqué que qu'est-ce que le Zohar veut dire? Le Zohar veut dire que la teshuvah d'en bas ne marche pas, mais la teshuvah d'en haut, elle marche. Donc on revient encore une fois à notre hé d'en haut et hé d'en bas. Là on voit que c'est pas une simple question de curiosité. Avant on croyait que c'était juste la curiosité, qu'est-ce que c'est le hé d'en haut, le hé d'en bas. Là, avec la deuxième question, on comprend que c'est pas une simple curiosité. Il y a des implications réelles pour tout le monde. D'accord? Parce que c'est pas les tzadikim qui font cette avéra. Et aux gens qui font cette avéra, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, ah, la teshuvah en hé d'en bas, ça marche pas, il faut le hé d'en haut. Mais c'est quoi le hé d'en haut, c'est quoi le hé d'en bas? Donc c'est pas une simple question de curiosité à la question qu'on a posée, c'est une question très importante. Qu'est-ce que c'est la teshuvah par le hé d'en haut? Qu'est-ce que c'est la teshuvah par le hé d'en bas? On l'appellera plus tard dans la suite du Guerre Teshuvah, teshuvah ila'a, teshuvah tata'a. Ila'a en hébreu, dans le mot ila en araméen, ça vient du mot elyon, D'accord. Elyon, ça veut dire en haut. Et tata, ça veut dire du mot tête. D'accord. Tat, ça veut dire en bas. En dessous. Donc la teshuva d'en haut, la teshuva d'en bas. Donc c'est très important de comprendre ça. Apparemment, pour cette avéra et pour d'autres avérotes, comme on verra après, il n'y a que la teshuva d'en haut qui peut réparer. Alors c'est quoi la teshuva d'en haut et comment on arrive à cette teshuva? Ça, c'est le deuxième point qu'on a dit, mais qui complète en vérité la première question. Donc en gros, on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est la teshuva d'en haut, d'accord, et qu'est-ce que c'est la teshuva d'en bas. Ensuite, troisième question, qui encore une fois est une suite de deux questions, bien sûr. On a expliqué, on a vu dans plusieurs endroits, d'accord, dans plusieurs endroits on a vu, que, a priori, le concept de karet et mitat bideshamaï, ça veut dire que quand on dit qu'une personne qui a fauté, par exemple quelqu'un qui a mangé du hametz à Pessah, d'accord, personne comme ça, il est chayav karet. Karet, ça veut dire quoi, hein? Karet, ça veut dire que normalement il doit mourir avant 60 ans. On a expliqué que dans certains cas, il mourait même encore avant 60 ans. Alors, a posé la question de Mourazaken, il a dit, pourtant on voit dans toutes les générations qu'il y a des gens, d'accord, des réchaïm, des vrais réchaïm, des gens que vraiment c'est des gens qui, des réchaïm qu'on sait, c'est un tzadik qui parle, d'accord, des gens qu'on sait que c'est des vrais réchaïm, c'est-à-dire des gens qui connaissent et qui ont quand même renié, et pourtant ils ont vécu longtemps. Et c'est même pas qu'ils étaient pauvres, parce qu'encore on peut dire qu'un pauvre est considéré comme un mort. C'est des gens qui ont vécu, ils étaient riches, ils ont vécu très longtemps. Donc il y a un problème dans le système. D'accord? Donc encore une fois, il y a un problème dans le rouage. Ça, c'est les deux questions qu'on a posées. Enfin, trois questions, mais qui forment deux questions. Donc première question, c'est qu'est-ce que c'est la teshuva d'en haut, qu'est-ce que c'est la teshuva d'en bas? Et apparemment, la teshuva d'en haut est très importante, puisqu'elle peut réparer certaines choses que la teshuva d'en bas ne peut pas réparer. Et deuxième point, tu me parles de teshuva, mais apparemment, tu me dis que normalement, il y a des gens qui devraient mourir avant 60 ans s'ils font pas teshuva. D'accord? Et dans des cas, normalement, même s'ils font teshuva, ils doivent mourir. Et pourtant, on voit exactement le contraire. Donc, il y a un problème. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on parle spirituellement? Alors, dans ce cas-là, ça fausse tout le système. Dans ce cas-là, une mitzvah aussi, elle est spirituelle. Alors, nous, quand on nous donne une mitzvah, ben, on fait Shabbat matériellement. Alors, quand tu dis que cette personne-là doit mourir avant 60 ans, c'est pas qu'on veut qu'elle meure. Attention. Dans ce cas-là, on cherche pas à ce qu'elle meure. Mais, apparemment, si la Torah dit quelque chose qui ne se passe pas, ça pose problème. On est d'accord?
Les œufs de Sota.
Oui.
Les routes tolées.
Très bien. Ça, c'est parce que dès le départ, la Torah a dit. La Torah a dit que c'est possible, possible que non. Mais là, dans le Karet, la Torah n'a jamais dit ça. La Torah a dit, il meurt avant 60 ans, sans équivoque. Pourtant, il meurt pas, les gens. Alors, comment ça se fait? Il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'il nous manque un élément dans le rouage. Apparemment, il y a peut-être quelque chose en plus qui peut se rajouter, qui, lui, il peut faire que la personne ne meure pas. Qu'est-ce qui manque? Et quel rapport avec la Teshuva? Donc, on va essayer d'expliquer tout ça. Achayinyan Yuvan. Vous avez Achayinyan Yuvan, qui incline avant la fin de la page. Est-ce que les questions sont claires?
Oui.
Oui? Les questions sont claires? Donc là, avec ces questions, d'accord? Avec ces questions, en fait, on a compris que, on doit comprendre ce qui se passe derrière le rouage, quoi. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce que la teshuva d'en haut? Qu'est-ce que la teshuva d'en bas? Et dans quel cas la teshuva marche? Dans quel cas ça marche pas? Et...
Ça a été fixé d'accord comme ça à 60 ans?
C'est oui? Dans des cas, on a dit même 50 ans.
Mais 60 ans, c'est le maximum.
Oui. 60 ans, c'est le maximum. Pourtant, on voit exactement le contraire.
Okay, on voit... Il y a même des gens jusqu'à 25 ans aussi qui ont fauté la
oui,
faute,
oui. Pourtant, on voit le contraire. On voit le contraire. Des gens, ils vivent très longtemps, sans problème. Il y a un problème. Encore une fois, c'est pas la question que Iyov a posée. Job et Iyov a posé une question. Il a dit pourquoi les tzadikim souffrent et pourquoi les réchaïm ils vivent bien. Ça, c'est une autre question. Ça n'a rien à voir avec notre question. C'est une très bonne question. C'est sur laquelle Dieu a fait comprendre qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Mais c'est pas ça la question. La question qu'on a ici, c'est que Dieu a dit qu'une personne comme ça doit mourir avant 60 ans. Pourquoi elle n'est pas morte? Comment ça se fait? C'est pas qu'on veut qu'elle meure, mais ça veut dire qu'il y a un problème dans le système. Il y a des éléments qui sont pas clairs, qu'on n'a pas compris. Voilà. Donc on va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors, d'abord, la Mourazaken, pour expliquer le rouage, avant même d'expliquer le lien qu'il y a entre un juif et Dieu, il va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est un juif. D'accord? Après, je dis pas qu'on va expliquer qu'est-ce que c'est Dieu, mais... Quelle est la spécificité du juif? Quelle est la particularité du juif? Quelle est la particularité de la roue du juif? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Après, on va nous expliquer quelle est la particularité du lien entre un juif et Dieu. Et c'est seulement après qu'on comprendra pourquoi un juif, quand il fait une avéra, c'est beaucoup plus grave qu'un non-juif lorsqu'il fait une avéra. Vous suivez? Alors d'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est un juif. Quelle est la spécificité d'un juif? Donc on va aller en crescendo. D'accord? Qu'est-ce que c'est un juif? Quel est le lien entre un juif et Dieu?
D'accord?
On va voir, on va expliquer. Il va expliquer longuement, vous inquiétez pas, il va expliquer longuement dans les détails. Ah, Chayinyan Yuvan, on va comprendre ça, Alpi Mashekatu, selon ce qui est écrit dans Hazin, ou qu'on a lu il n'y a pas longtemps, c'est écrit Ki Chelek Hashem Amo. Le verset il dit Ki Chelek Hashem Amo. Ça veut dire quoi Ki Chelek Hashem Amo? Ça veut dire que le peuple juif est une partie de Dieu. Donc, si je traduis, si on traduit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple juif est Chelek Mishem Avaye Baruchou. Le peuple juif est une partie intégrante du nom de Dieu. Ça veut dire quoi, une partie intégrante du nom de Dieu? Alors, on va essayer d'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apparemment, bien sûr que toutes les créatures de la planète viennent de Dieu. Il n'y a pas une crise. C'est pas que le peuple juif dépend de Dieu et les autres créatures dépendent des autres forces. Impossible. Tout ce qu'il y a dans le monde dépend de Dieu. Mais, néanmoins, apparemment, on comprend d'ici que le Ham Israël, ils ont un rapport particulier avec le nom de Havaïe. Le nom de Havaïe, d'accord, je vous ai dit plusieurs fois, c'est les mêmes lettres que Yudke Vavke. Il y a plusieurs noms pour un peuple. Ils ont appelé Hachem, Elohim, etc. D'accord? Et là, ou bien Ado, virgule, etc. Et là, apparemment, le Ham Israël est lié particulièrement au Shem Havaya, au Shem Yud Kivavki. D'accord? D'où on sait ça? C'est écrit clairement. Le verset, il dit, Kirelek Hashem Amo. Que Amo, son peuple, c'est nous, on est une partie de qui? Hashem, vous verrez dans la Zinou, c'est écrit Yud Kivavki. Kirelek Hashem Amo.
Il y a deux et en plus, c'est peut-être le et d'en haut et le.
Le? Il y a deux... Oui, bien sûr. Oui, on l'a dit ce matin. Oui, bien sûr, on va voir ça après aussi. D'accord ? Alors, et c'est pas seulement ça. Hein. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on voit dans le... Quand on va dans la paracha à Dino... Non, il n'en est pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha Hazinou? Dans la paracha Hazinou, Rashi là-bas, il dit, ce verset-là qui dit Kirelek Hashem Amo, il vient juste après un autre verset, très important. Cet autre verset, il dit Yatsev Gevulot Amim, Lemispar Bene Israël. Et là-bas, Rashi explique qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, de quoi il parle? Je peux ouvrir, ça ne dérange pas. Akadosh Baruch Hu, de quoi il parle? Il parle du Ham Israël lorsqu'il est dans un état, je vais prendre un chumash, je vais vous montrer. D'accord? Ah mais c'est bien quand on est comme ça.
Ouais.
Faut ouvrir une troisième table.
Avant il y avait deux tables, Monty. Depuis quelque temps on a remis
économie,
deux tables.
Économie.
Et je trouve que c'est plus convivial quand c'est... À moins quand les uns sur les autres.
On était le matin des points du monde et une table on était... Ouais. Là, debout,
ouais. D'accord, bon, on va rajouter alors. Ils étaient là-bas pour le kidouche. Alors, dis-nous, je vais vous lire dans les mots. La Medbet, 7. Voilà. Donc on a deux versets.
Il y avait des trucs à manger.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas
du tout, c'est ça. Il n'y avait plus de même route. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a pas de place. Alors, Parashat Hazinou. D'accord, je vous lis 2-3 lignes. Passou Kret, au début de la Parashat Hazinou, il dit la chose suivante. Il dit Yatsev Gevulot Amim, Lemispar, Bene Israël. Yatsi que vous l'attendez l'histoire béni Israël, qu'est-ce qu'il explique Rashi? Rashi dit que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a déjà prévu l'emplacement de chaque personne du peuple juif qui sortira de l'état d'Eretz Israël, qui ira s'installer dans les nations. Donc il parle notamment de l'Égypte. D'accord? Ça veut dire qu'on parle clairement de la galoute. De la galoute, et dans une situation que le Ham Israël sera perdu. D'accord? Ça c'est le pasouk Kret. Juste après ce pasouk, vient l'autre verset qui dit qui relek Hashem Amo. Sache qu'un juif il doit savoir que le peuple juif fait partie du nom Yudke Vavke. C'est-à-dire, de là, on comprend quoi? On comprend que qu'on fait partie du nom de Yudke Vavke, que le peuple juif fait partie du nom de Yudke Vavke, pas seulement lorsque tout va bien, lorsqu'on est en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, mais même lorsque les choses ne vont pas bien. Le verset le dit clairement. Le verset d'abord nous dit que Dieu a prévu ce qui allait se passer quand on allait partir. Bon. Et juste après, il dit, ah, attention, Tichelek Hashem Amo. Le peuple juif fait partie du nom Yudke Vavke. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que le peuple juif fait partie du nom de Havaïe, du nom de Kevavke, est quelque chose qui n'est pas seulement quand tout va bien, c'est même quand, malheureusement, tout ne va pas bien.
Ah oui, parce qu'il y a une coloration entre les
deux. Pas seulement ça, le mot Ram en hébreu. Ram en hébreu, ça veut dire quoi? Ram, ça veut dire un peuple, d'accord? Mais Ram, ça veut dire aussi autre chose. Ram, ça veut dire aussi, en hébreu, ça veut dire Omem. Omem, ça veut dire quoi? Omem, ça veut dire quelque chose qui est en train de s'éteindre. Quand il y a des braises qui sont en train de s'éteindre, on les appelle Gechalim Romemot. Et là, on voit que Dieu dit qu'il relèque Hachem Amo. Il y a une allusion, en fait, que même lorsque le Ham Israël sera en mode remémime, ça veut dire qu'ils seront presque en train de s'éteindre, d'accord? Même là, toujours, qu'il relèque Hachem Amo, le peuple juif est toujours une partie intégrante du nom de Yudke Vavke. Ça veut dire quoi? Alors, on va expliquer. Qu'est-ce qu'il dit, comme c'est écrit? Vaifar be'apav nishmatraim. Ça veut dire quoi que le peuple juif fait partie du nom Yud Kevavke? En clair, ça veut dire quoi? Il explique. Donc déjà, un premier élément très important, on a expliqué que c'est un élément qui ne dépend ni du temps, et ni du degré de religiosité, si on peut dire, du peuple juif. C'est-à-dire, même si le peuple juif est chas v'shalom en train de s'éteindre, ça ne change pas que le peuple juif est toujours Chelek Hashem. Toujours une partie intégrante du nom de Yud Kevavke. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, que dire-t-il, comme c'est écrit, notre verset, dans la paracha Bereshit, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, c'est écrit « Vaifar be'apav nishmat raim ». C'est écrit que Akadosh Baruch Hu a insufflé dans les narines de Adam Arishon « nishmat raim ». Il a insufflé une âme de vie. Alors on ne dit pas « souffler ». C'est quoi la différence entre « souffler » et « insuffler » Même en français.
Souffler, c'est de l'intérieur. C'est faire sortir, c'est de l'intérieur.
De l'intérieur. Et c'est quoi souffler? C'est quoi la différence? Voilà, essaye de souffler, essaye d'insuffler. C'est quoi la différence?
Insuffler, tu inspires et l'autre, tu expires.
Ah non, pas du tout.
Souffler, ça vient de l'intérieur.
Souffler, c'est de l'intérieur.
C'est quoi la différence entre souffler et insuffler?
De l'intérieur vers
c'est transmettre de soi.
Alors, souffler, d'accord, c'est quand je souffle d'un souffle en général qui ne me fatigue pas. Par exemple, quand je parle, quand vous mettez la main devant la bouche, vous voyez que quand on parle, il y a du souffle. Pourtant, ça fatigue pas. On peut parler des heures et des heures sans que ça fatigue. Ça s'appelle souffler. Insuffler, d'accord, c'est quand, par exemple, on fait du bouche à bouche pour réanimer quelqu'un.
On donne de soi.
D'accord, on donne de soi. Et là, ça vide. Ça vide. En quelques secondes, on est vidé. Quel terme a employé on a employé dans la paracha Bereshit pour dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné naissance à Adam Arishon, il lui a soufflé la Neshama. On n'a pas dit il a soufflé la Neshama. On dit il lui a insufflé la Neshama. Ça veut dire qu'apparemment...
Il a pris ça de lui.
Voilà, il lui a pris de lui et qu'apparemment il y avait un certain effort, si je continue dans la même logique. C'est le texte que la verset utilise, c'est la formule que le texte a utilisée. Pourtant, depuis le début, d'accord, qu'est-ce qu'on a vu? Par exemple, on a vu que lorsque Dieu a créé tout, c'est écrit Vayomer. Vayomer, Vayomer, Elokim Yeyor. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pas il a fait la lumière. On n'a pas dit nulle part qu'il a fait la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que les animaux, etc. C'est-à-dire, ça se fait tout seul par la parole. Dès qu'on arrive à l'homme, là, il y a une particularité. C'est quoi? C'est que là, apparemment, Dieu a insufflé. Pas seulement soufflé, il a insufflé.
Adam Arishon, tu parles?
Bien sûr. Adam Arishon.
Oui, mais Adam Arishon, c'est la première Neshama, toutes les Neshama.
Attends. Oui, j'attends la question. Adam Arishon, il n'est pas forcément juif.
Voilà.
C'est la question?
Oui. Ouais,
on avait... Ça, c'est le premier Perek. Hein. Ça, c'est tout le
on a mentionné Perek. Ça dans le deuxième Perek.
Chelek Elohim Mamash.
Perek Bet.
Bet, excuse-moi.
Alors, Ouman de Nafar, quand Mitochen, non, c'est vrai, il a raison. Deuxième Perek.
On n'apprend rien, là.
Quoi?
Il n'y a rien de nouveau dans ce que dit le Baladania.
Ah, mais c'est écrit dans le... Pour l'instant, on a fait comme dans un pasouk. Ben, on avance.
Tout ça, il avait
connu déjà. Non, vous n'avez pas compris mon intention. Mon intention, c'est de dire où est le Kidouche par rapport à...
Attends, on va arriver.
Je sais.
D'accord.
Là, il te met les passes.
Non,
c'était pour comprendre la différence.
Ce qui veut dire, c'est que si Yéret Hatshuva vient après, c'est que certainement, on apprend un élément nouveau.
Voilà, Chazak Oudaro. C'était ça.
J'ai bien compris.
Chazak. Non, il y en a certains qui pensaient que...
C'est pour ça que je t'ai répondu. Pour l'instant, on a fait qu'amener le verset. J'ai fait qu'amener le verset. Deuxième chose, il continue à demander à Zakel. Il dit, or, on sait ce que le Zohar dit. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar dit, Ouman de Nafar, Mitoche Nafar. Que celui qui souffle, d'accord? Celui qui souffle, donc celui qui insuffle en vérité, Nafar, Nafar c'est insufflé, Mitoche Nafar, il insuffle de son intérieur, de ce qu'il y a de plus profond. Ça veut dire quoi? Alors le Arizal explique. Le Arizal explique dans son livre L'Ikoutei Torah du Arizal, il explique la chose suivante, il dit que lorsqu'on dit que Adam Arishon, dans la Neshama d'Adam Arishon, était incluse toutes les Neshamot, de quelles Neshamot on parle? On parle uniquement des Neshamot d'Israël.
D'où il sait?
Ah, d'où il sait? C'est le Arizal.
D'accord, mais il peut se calmer une fois.
D'accord. Non, il dit comme ça, il dit parce que c'est écrit Adam Atem. Il y a un autre verset quand il parle d'Israël, il dit Adam Atem, vous êtes Adam. Donc de là, il apprend, c'est-à-dire que les Neshamot, il y a seulement les Neshamot d'Israël qui étaient inclus chez Adam Arishon. Bon. Alors, on va en arriver. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Bien que, a priori, ça veut dire quoi quand on dit que Dieu a insufflé? D'accord? Ça veut dire quoi Dieu a insufflé? Si Dieu dit insufflé, ça veut dire qu'il y a un effort. Si on ne comprend pas. Mais Dieu, d'abord, il n'a pas de forme de corps. Dieu n'a pas de corps. Chatzvé shalom. D'accord? Ar, cependant, Dibra Torah, Kelashon Nada. C'est un principe que la Gemara dit déjà au début du traité Brachot, quand il dit que Dibra Torah Kalashon Adam, la Torah parle dans le langage des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, des fois, veut nous faire passer un concept, d'accord, mais si elle explique tel quel, on ne va pas le comprendre. Donc elle va nous expliquer dans un langage humain, d'accord ? Elle va emprunter quelque chose au langage humain, au langage des hommes, pour qu'on puisse comprendre l'image. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer que Dieu a soufflé ou a insufflé, etc. Alors quelle est l'image que la Torah va nous faire passer ? Il explique. Il dit « Kikmosh yeshefresh vevzel gadol » De la même manière qu'il y a une grande différence, une très grande différence, « Be'adam atarton » dans l'homme ici-bas, « Alderech mashal » Ben Aevel Shiotse Mipiv Mediburo, entre le souffle qui sort de sa bouche en parlant, les Hevel Ayotse Alidenifira, au souffle qui sort de sa bouche en insufflant. C'est quoi la différence? Elle explique. Shebeyotse Mediburo Melubashbo Koar Vechayut Meat Miser. Comment ça se fait que quand je parle, d'accord? J'ai une question très simple. Imaginez-vous que je vais insuffler, d'accord? Si je vais essayer de quantifier l'air que j'ai insufflé. Je vais insuffler, on va dire, pendant 30 secondes. C'est déjà énorme. Essayer d'insuffler pendant 30 secondes, c'est déjà énorme. D'accord ? Bon, on va essayer de quantifier cet air-là. D'accord ? On va arriver à je sais pas combien. Comment ça se quantifie, l'air ? D'accord ? En volume. Bon, alors on va dire en 30 secondes, en 30 secondes, je vais insuffler combien d'air ?
Un ballon.
D'accord ?
Yes,
combien d'air ? C'est énorme.
Un ballon.
Hein ? On va dire 10 litres ? 10 litres peut-être ? 30 secondes, c'est déjà énorme. D'accord ?
Ça dépend d'un seul souffle
ou un ballon. 10 litres.
Ça dépend
de
combien
tu reprends ton air.
D'accord. 10 litres. On va dire, je vais insuffler 10 litres, je vais être fatigué. Très bien. Bon, donc j'ai insufflé 10 litres et je suis fatigué. D'accord. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui parle pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. D'accord. Et qu'on va essayer de quantifier l'air qui fait sortir de sa bouche. Il va sortir plus que ces 10 litres. Beaucoup plus que ces 10 litres. D'accord. Dans un temps plus long. Et pourtant, au bout de ces 5 heures, il n'est pas fatigué. En tout cas, il n'est pas fatigué parce qu'il a insufflé. C'est peut-être sa tête qui est fatiguée.
Il reprend de l'air en même temps.
D'accord. Mais si on va en quantité, il a fait sortir beaucoup plus d'air. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il est moins fatigué. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Là, elle explique. Yishbeyotse bediburo, parce que ce qui sort avec sa parole, melu bashbo koar vechayut me'at miser. Dans ce qui sort par la parole, il y a seulement une énergie infime. Ve'uprinat, chitsoniyut, c'est seulement l'extérieur, mi nefesh achaya shebekirbo. C'est seulement l'extérieur de son âme, ça veut dire que c'est pas l'intérieur, c'est pas le plus profond. Donc peut-être qu'en quantité, il y en aura beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en quantité, il y a des gens qui peuvent parler 10 heures. D'accord ? Mais c'est superficiel. Donc puisque c'est superficiel, ça ne fatigue pas. En quantité, il y a peut-être plus. Mais en qualité, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc puisqu'il n'y a rien, ça ne fatigue pas. Aval, mais... Mais ce qui sort par la force de l'insufflement. D'accord ? Des mitochonafar. Que ça vient de l'intérieur. Là, il va insuffler de ce qui est le plus profond de lui. D'ailleurs, on le sent. Quand on insuffle, on sent que ça vient d'ici. D'accord ? Ça vient d'ici. Ça vient du bas du ventre. Mais l'oubashbo, koar vechayut pnimit, miprinat anefashachayin. Pourquoi ça nous fatigue plus ? Parce que l'énergie vient d'un niveau plus profond de la Neshama. L'énergie vient d'un niveau plus profond de la Neshama. C'est pour ça que puisqu'elle vient d'un niveau plus profond, au bout de quelques secondes, on est fatigué, on est esquinté. Comme si on a fait un effort, comme si on a couru pendant des heures.
Mais pourquoi ?
D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce qu'on a expliqué ici, c'est qu'en vérité, pourquoi la Torah veut nous dire qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé la Neshama d'Adam Arishon ? C'est pour nous donner une image. Pour nous dire que de la même manière que chez l'homme, on voit que il y a ce qui est intérieur, il y a ce qui est superficiel et il y a ce qui est profond. Et que quand c'est superficiel, on peut parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures, ça te fait rien du tout. Ouais, quand c'est profond, deux secondes, en quelques secondes, tu es crevé. C'est-à-dire que quelle est la différence? Donc si maintenant on va résumer en un mot, quelle est la différence entre souffler et insuffler? C'est que un est superficiel, l'autre est profond.
Attends, mais ça veut dire qu'en créant la lumière et tout ça, alors...
Ah, attends, une seconde. Là pour l'instant, on explique chez l'homme. Ça c'est l'image qu'on essaie de récupérer. Ça veut pas dire que Dieu s'est fatigué en créant l'homme.
Non mais...
Deux secondes.
Je comprends l'image.
D'accord. Mais... L'image qu'on veut te dire, c'est quoi ? Quelle est la différence chez un homme lorsqu'il souffle et il insuffle ? C'est la quantité ? Non, c'est pas la quantité. D'accord ? C'est même pas l'effort. Qu'est-ce qui fait que quand j'insuffle, je suis très fatigué en quelques secondes, et quand je parle, je peux parler des heures et des heures, et je suis pas fatigué du tout.
Alors,
qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, c'est là. C'est que quand je souffle, c'est superficiel, c'est extérieur. D'accord. Alors que quand j'insuffle, ça vient de, je prends le souffle d'un endroit plus profond de chez moi. Donc puisque c'est plus profond, c'est pour ça que ça me fatigue. Un est pnimi, l'autre est chitsoni. D'accord. Dans un, il y a une quantité infime d'énergie. Deux secondes. Dans un, il y a seulement une quantité infime d'énergie, de la neshama. Dans l'autre, il y a une grosse quantité. Mais c'est pas seulement la quantité. C'est que dans un, c'est superficiel. Dans l'autre, c'est profond. Ça vient d'un niveau plus profond. D'accord ? Et même on le voit. Un, il vient des poumons.
Réserve.
D'accord ?
Il vient des tripes.
D'accord ? Et l'autre, il vient des réserves. On sent qu'il vient d'un niveau profond. D'accord ? C'est pas seulement les réserves, c'est plus que les réserves, les tripes, exactement. Oui, ah, les tripes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un est superficiel, l'autre est profond. Bon. Donc, quelle est la différence entre souffler et insuffler ? C'est pas une différence quantitative, c'est peut-être même pas une différence qualitative. Dans la qualité de l'air, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. D'accord ? C'est une différence par rapport à la personne qui a donné. Est-ce qu'il a pris ça de l'intérieur ou est-ce qu'il a pris ça de l'extérieur ?
Par rapport à l'effort, quoi.
Est-ce que c'est superficiel ou est-ce que c'est profond ? Ah bien. C'est ça l'image qu'on veut récupérer. D'accord ? Pas l'effort. Dieu n'a pas d'effort. Ni dans la quantité, ni dans la qualité, ça ne change rien du tout. D'accord ? Parce que Dieu, comment il a créé les autres créatures ? Il les a créées avec la
parole.
Ah, on y arrive là. Il a créé avec la parole. Et l'homme, c'est pas avec le souffle de la parole, il a insufflé. C'est quoi le message qu'on veut nous faire passer ? D'accord ? Le message qu'on veut nous faire passer, c'est la différence entre ce qui est superficiel et ce qui est profond. C'est ça le message que la Torah veut nous faire passer. D'accord. Kacha mamash. Kacha mamash. De la même manière. Al derech mashal. Allez, mais si on avance. Kacha mamash. De la même manière. Al derech mashal. Amavdil avdalot lenket. De la même manière. Amavdil avdalot lenket. Ça veut dire que bien sûr, il n'y a rien à voir entre un homme et Dieu. Mais si c'est écrit dans la Torah que Dieu a insufflé, c'est-à-dire que c'est pour nous donner cette image. Quelle image ? C'est pour nous dire que Yesh et Fresh Atsum, mais Od, les Mala, qu'il y a une différence énorme en haut par rapport à Kadosh Baruch Hu, Ben Kol Seva Shamaim entre toute l'armée du ciel. Messieurs, vous avez une question ? Est-ce qu'il y a une question ? Il y a une question ?
Oui, certains se demandent pourquoi des artistes, des personnages qui ont fait des musiques extraordinaires, des non-juifs, qui ont, d'après les goïms, touché Dieu par leur art.
Et alors, ouais.
Comment on peut imaginer que...
Ils ont touché Dieu par leur art.
Oui, par exemple, on peut imaginer...
Ah, c'est nouveau, ça, comme...
Je prends la parole de quelques personnes qui sont autour de moi. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Ils demandent comment eux, ils peuvent pas venir d'un cadeau
par
leur
art. Ils ont touché Dieu par leur art.
Non, mais...
Oui, les goïms pensent que l'art est un mode de communication avec le divin.
Ils ont touché, d'accord, j'ai compris, ils ont touché.
Alors comment, certains se posent la question, comment ces gens-là...
Tu veux dire, ils se sont connectés avec Dieu.
Comment ces gens-là sont plus bas que les juifs.
Touché, on a accusé, Dieu était touché. Comment
ces gens-là peuvent être plus bas...
Des Mozart, des...
Voilà, comment ils
ne parlent pas de ceux-là, c'est des tocards, bon. Hein, ceux-là dans leur vie, hein. Excuse-moi. Ah non, c'est pas facile à dire, c'est eux qui l'ont fait. Hein.
Quoi ? Mozart, t'as...
Ah bien sûr. Bon, enfin, je vais pas raconter des...
Toi, tu sais qui c'est Mozart ? Rien, tu m'en bouges.
Alors, on continue. Donc la question c'était, comment ça se fait ?
Ces gens-là, comment on peut imaginer que ces gens-là qui ont un art extraordinaire...
Mais on n'a même pas encore.
Ils n'ont pas une part.
Excuse-moi, on n'a pas encore. On n'a même pas encore défini qu'est-ce que c'est l'homme Israël. On a seulement donné un exemple pour l'instant.
Si, l'un il est fait avec l'insufflement.
Attends,
l'autre avec le souffle.
Moi j'attends une meilleure question que ça. Et la Gemara Zaken va répondre à une meilleure question que ça. Les anges.
Les anges sont.
Quoi,
ils ont été créés par la parole.
Les anges c'est que par la parole. Comment les anges avec tout ce qu'ils font, hein, eux ils touchent Dieu aussi. Pourtant eux c'est que la parole. Avec ce qu'a Gemara Zaken. Kacha mamash al derech mashal. Kacha mamash al derech mashal. De la même manière, a mavdil avdalot l'enket. Alors, quelle ligne on est ?
9e. 8e.
On est là, 8e ligne.
8e ligne,
page Sadik Dalet. A mavdil avdalot l'enket. Yesh et fresh atsum me od lemala. Il y a une différence extraordinaire en haut. Ben kol tzva shamaim. Entre toute l'armée du ciel. Va filou à Malachim, et même les Malachim, Chenivreou, mais Aïn Liyesh, qui ont tous été créés ex nihilo, ça veut dire qu'il y a une création, par la parole de Dieu. Sauf que, Vekayamim, Miprinat, Ritsoniyut, Achayut, Vashefa, Shemashpia, Ensov, Aruchou, Lachayat, Aolama. Ça veut dire bien sûr qu'ils sont créés par un Kadosh Baruch Hu, et bien sûr qu'ils sont alimentés constamment par un Kadosh Baruch Hu, ça c'est évident. mais ils sont alimentés constamment par, si on peut dire, de manière superficielle par un Kadosh Baruch Hu. Ça veut pas dire que c'est un Kadosh Baruch Hu, il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Mais c'est-à-dire qu'on veut nous montrer que c'est de manière superficielle. Ou prinazo, nikre drouar piv. Et ça, à ce niveau-là de superficialité, est appelé drouar piv, le souffle de la bouche. Al derech machal, kemo shekatuv, comme c'est écrit, ouvre drouar piv, kol teva. D'accord ? Comment on dit ça ? Comment on dit ça ?
Paul Seva,
dans les avant le après Baruch Shama.
Oui, bien. Juste avant Ashrei. Vous rappelez Paul Seva, vous connaissez Kanet Mayan, vous êtes d'accord. Bon. Traduction. Ouvrons Arpiv par le souffle de sa bouche.
Déjà, faut être là déjà.
D'accord.
Ah oui, après Baruch Shama, c'est avant
Ashrei. Déjà, faut être là.
Ouvro arpiv, kol sevaam.
Entre Odo et Alain, nous savons.
Par le souffle, non, il avait raison. Ouvro arpiv, kol sevaam, par le souffle de la bouche de Dieu, ont été créées, kol sevaam, toutes les armées. Ah, le souffle de la bouche. Toutes les armées, c'est-à-dire tout ce que Dieu peut avoir, l'ange Michael, l'ange Gabriel, c'est les armées, tout ça. Et tout cela ont été créés par qui? Par le souffle de la bouche. Roar, pas vaipar, bapav. D'accord? Roar. Roar, c'est le souffle normal, le souffle standard. Ça, c'est l'énergie qu'on retrouve dans les lettres qu'il y a dans les Asara Mamarot, dans les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Ça, on expliquera longuement à Bezrat Hashem. C'est dans Shahar Echouz Emouna. Dans Shahar Echouz Emouna, la Bible explique longuement comment les 10 paroles de la Kadosh Baruch Hu, c'est pas simplement 10 paroles générales, il explique là-bas comment avec les combinaisons de ces 10 paroles sont créées jusqu'aujourd'hui, tout ce qui existe dans le monde est créé avec des combinaisons de ces 10 paroles, des combinaisons de lettres. D'accord ? Et il explique différentes combinaisons possibles, etc. Oui, si tu veux, on arrive à ça. D'accord ? Alors, ça c'est Vroar Piv. Toutes les armées de la Kadosh Baruch Hu, tout ça ont été créées par quoi ? Par les 10 paroles de la Kadosh Baruch Hu, les 10 paroles, donc c'est les 10 paroles qu'on a retrouvées, qu'on retrouve au début de la Parasha Bereshit, que la lumière soit, la lumière fuit, il y a 10 paroles, voilà. Et avec les combinaisons des lettres, et il y a plusieurs exemples là-bas de combinaisons, avec les combinaisons des lettres, tout ce qu'il y a dans le monde a été créé. Et jusqu'à aujourd'hui encore, l'énergie divine est tirée, d'accord, de cette parole de la Kadosh Baruch Hu que Dieu a dit au début de la création.
Même d'accord, le miracle, même la sortie d'Égypte.
Tout. Toute l'énergie qui existe, d'accord, ouais, le miracle seulement quand Dieu décide de dévoiler certaines choses. Mais toute l'énergie, elle vient de ce que Kadosh Baruch Hu a fait au début de la création. Ça, c'est Veru Arpiv. Ça, c'est le souffle de la bouche. Mais apparemment, on est en train d'apprendre ici que tout ça, c'est seulement du superficiel.
Non.
Du vent, oui. On peut dire du vent. Ou ben, nishmat adam. Donc, il y a une différence entre tout ce vent, toute cette superficialité, ou ven nishmat adam, il y a une différence entre tout ça et la neshama de l'homme, shenimshecha trila, niprinat pnimiyut achayut. La neshama qui vient de la profondeur de l'énergie, c'est-à-dire qu'apparemment Dieu, kaviachol, s'investit plus.
On parle de l'homme, d'accord, là, on parle
bien sûr.
Du juif. Hein.
J'ai dit qu'on parle du juif.
L'homme, c'est le juif.
Là, parce que la neshama d'Adam Arishon, c'est la neshama du juif.
Vous savez partie des 10 paroles quand même, dans la création, dans les 10 paroles.
Ah non. Dieu a dit à un moment que l'homme soit.
Les 10 paroles s'arrêtent avant.
Bien sûr.
Ah,
c'est écrit. Ouais. Voilà comment c'est écrit.
Peut-être.
D'accord.
Peut-être. Faut que je réécris.
Où c'est?
Non, mais c'est intéressant. Il crée l'homme le sixième jour.
On est ici dans le.
Avant Shabbat, 2 heures avant Shabbat. Effectivement, c'est avant la création. Mais non, il n'y a pas la création du sixième jour.
Ah oui, la raison.
C'est
oui, c'est dans le Shabbat, c'est même pas dans Shacharit.
Ah, pour le...
Dans le Ranout Sadikim. Bon, c'est pareil pour ceux qui sont là au début de l'office.
Ouais,
c'est
non, il avait raison, c'est après... C'est après... Ah non, c'est pas après Baruch Shamar, c'est avant Baruch Shamar.
C'est avant Baruch Shamar. C'est pas le même jour.
C'est après Hachem Meler, mais avant Baruch Shamar.
D'accord, je sais que c'est Shabbat matin.
Bon, c'était dans la zone, quoi. Comment je suis comme c'est écrit. Donc où j'en étais. Donc tout ce qu'on a expliqué, tout ça, c'est-à-dire toute la création, quand les anges, tout ce qu'on veut, ça c'est la parole de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a jamais dit que l'homme soit. C'est écrit Dieu a formé un homme. D'accord, il a formé. Et après, c'est écrit, il a insufflé dedans, un souffle de vie. Il a jamais dit que l'homme soit et l'homme fut. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a une méthode de création différente. Pourquoi?
Parce qu'on peut penser que Akadosh Baruch Hu est passé par des intermédiaires pour créer la création, sauf l'homme.
Non, vas-y, explique.
Il n'a pas créé de poussière.
On va expliquer. On va expliquer, attention. Là, Mourazaka, encore une fois, rappelez-vous, on est en train d'essayer de comprendre les rouages. D'accord? Les rouages du système. Donc là, maintenant, avant même de comprendre les rouages du système, on essaie de comprendre qui est Israël dans tout ce système. Et là, on pose les premiers jalons, on dit, attention, Israël n'a pas été créé de la même manière que les autres. La Neshama d'un juif n'est pas créée de la même manière que le reste de l'humanité. D'accord. Pourquoi, comment, on va expliquer.
C'est fou que la plupart des personnes ne se sont pas posées cette question, qu'effectivement, la différence entre la création et l'homme qui a été créé différemment.
L'homme, c'est pas écrit que l'homme
soit
et l'homme plus.
C'est qu'on avait l'habitude d'aborder dans la...
Oui, bon, c'est parce que c'est des choses qu'on a fait quand on était enfant. Moi, chez Katouf, comme c'est écrit, va y faire le gomère. Quoi?
T'as compris?
Non, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que quand c'est des choses qu'on apprend quand on est enfant, alors après, du coup, c'est des choses qui nous paraissent évidentes.
Évident, tout à fait.
Alors que pour des gens qui apprennent ça quand ils sont adultes, qui n'ont jamais appris, ils posent juste des questions qu'un enfant ne se pose pas. Comme ça, bon, c'est... Alors que la Neshama, comment elle a été créée, c'est écrit, va y faire le gomère. C'est écrit que Dieu a insufflé. Et ça, selon la Mourazaken. C'est pas seulement une différence. La Mourazaken a appelé ça Efresh Atsum Meod. D'accord? C'est une différence. Atsum, ça veut dire extraordinaire. Meod, très extraordinaire. Ça veut dire qu'il a mis tous les termes qu'il pouvait. Selon la Mourazaken, c'est pas juste une petite différence. C'est une différence qui change tout.
Deux grosses différences.
D'accord? Bien sûr. Puisque, qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? J'ai expliqué que l'énergie que Dieu a mis dans la création, c'est de cette énergie que toute l'humanité est créée jusqu'à maintenant. Amechadesh betu vo bechol yom tamid, maase vereshit. Dieu renouvelle constamment les créatures. Comment? Avec cette énergie. Et là, on explique qu'apparemment dans cette énergie initiale, et donc l'énergie initiale qui a créé la neshama d'Adam Harishon, qui inclut toutes les autres neshamas qui vont suivre, bah apparemment la création initiale n'a pas été de la même manière. Donc si la création initiale n'est pas de la même manière, bah c'est tout le système après qui n'est plus le même. Donc rouage, on arrive. Donc là, on a cherché la première roue. Et là, on voit que la première roue n'est pas la même. C'est pas la même. Pour toute l'humanité et pour Israël. Donc si dès le départ c'est pas la même, bah, c'est tout le système après qui va changer.
Donc on est
d'accord.
Dieu.
Donc on est carrément dans une autre voie.
Donc on est Dieu.
Selon la Mourazaken, ça c'est Efresh Atsum Meot. C'est une différence qui est extraordinaire, qui n'a rien à voir. D'accord. C'est une différence qui... Ça veut dire qu'il n'y a rien à voir entre la manière comment tout a été créé et comment les hommes ont été créés, comment Adam Harishon a été créé. Encore une fois, je vais expliquer pourquoi c'est une différence qui est extraordinaire. Les anges, par définition, même les anges, par définition, ils sont annulés à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, les anges, c'est des créatures que tout ce qu'ils ont dans la tête, puisqu'ils ont une compréhension, c'est seulement faire la volonté de Dieu. C'est tout ce qu'ils ont, ils n'ont rien d'autre. Ça, a priori, c'est quelque chose qu'un juif n'a pas. Un juif, il n'a pas dans sa tête toute la journée faire la volonté de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que même l'ange qui a la volonté, même cet ange-là qui a la volonté de uniquement, il a la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on te dit? Lui, c'est seulement superficiel. Et le juif, c'est profond. Va'achar kach yardin, on va lire encore quelques lignes. Va'achar kach yardin, v'setera madrega gamken el deprinat otiyot shebemamar nase adam. Ah. Donc, le Mourazaken, il dit comme ça. Il dit, bon, tu vas me poser la question dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on voit que biologiquement, d'accord, l'homme est comparable aux animaux? On est d'accord? L'homme, bah, il a un système un peu comme les animaux. Donc apparemment tu me dis qu'ils n'ont pas été créés de la même manière. Mais s'ils n'ont pas été créés de la même manière, comment ça se fait que les hommes et les animaux se ressemblent? On explique, c'est très simple. Il dit parce qu'au début, Akadosh Baruch Hu a insufflé la Neshama, d'accord? Mais après il dit, après cette énergie est descendue, Beseter Amadrega, c'est-à-dire elle est descendue progressivement, jusqu'à ce que cette énergie est devenue elle aussi une parole de Dieu. Donc qui dit parole, ça veut dire qu'il y a eu aussi un aspect superficiel qui a donné naissance à notre corps. Ça c'est quand Dieu a dit, écoutez bien, Naase Adam. Betzalmenu kitmutenu. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, ça c'est déjà une parole. D'accord? Ça c'est quand Akadosh Baruch Hu est en train de faire descendre cette énergie, en parole. En parole, ça veut dire, il est en train de la faire descendre en mode superficiel. Qu'est-ce
qu'il a bêche? Il a insufflé. C'est donc qu'il existait, le
corps. Oui, bien sûr. Il a insufflé après. Mais c'est pour dire que d'abord Dieu voulait créer l'homme de manière profonde. Mais pour créer le corps de l'homme, il a dû d'abord faire descendre une partie de l'énergie en mode superficiel pour créer la partie matérielle de l'homme. Et après, il a envoyé un gros coup, la Neshama, c'est la Neshama, et ça c'est profond, c'est pas superficiel. Donc, dès l'Iklabesh, Begouf, Olam, Azé, Atarton. Mais encore une fois, la descente était uniquement, d'accord, pour créer, la façade matérielle de l'homme. La façade matérielle de l'homme qui est biologiquement, la même, qui est biologiquement animale. Mais ça, c'est seulement une façade. Mais intérieurement, c'est pas seulement intérieurement, c'est si on voit l'essence même de ce qui a créé l'homme, la première roue, ça n'a rien à voir entre l'homme et les autres créatures. Chez l'homme, c'est profond. Chez les autres, c'est superficiel. Dans le langage du Edmond Razaken, chez l'homme, c'est pnimi, d'accord? C'est profond, c'est comme insufflé, ça vient du plus profond. Pas que ça fatiguait Dieu, c'est juste pour nous donner l'image. Ça vient du plus profond. Alors que pour toutes les autres créatures, inclus les malachim, d'accord? Les malachim inclus, c'est chitson, c'est superficiel.
Inclus les non-juifs.
D'accord? Inclus les non-juifs.
Donc en fait, quand il dit faisons notre image, c'est pour toute l'humanité.
Oui.
Et quand il est insufflé, c'est que pour les juifs.
C'est ce qu'il dit ici. Quand on dit faisons notre image, c'est déjà du superficiel. D'accord? Mais la Neshama, ça c'est que pour
l'âge. Voilà,
c'est plus clair déjà.
Là déjà, il a fait la différence entre le peuple juif et les...
Voilà, oui, c'est pour ça que
alors, je précise. Là maintenant, avec ça, ça va nous permettre de comprendre, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a écrit dans la paracha Zinou? Dans la paracha Zinou, c'est écrit « Kirelek Hashem Ramo ». Que le peuple juif, même lorsqu'il est, Dieu préserve, c'est-à-dire même quand avec les rouages, malheureusement, ça s'est terminé en catastrophe. Mais nous, on voit toujours la première roue. Et qu'est-ce qu'on te dit? La première roue, c'est qui relègue Hachem à mot. Le peuple juif est une partie de qui? Hachem. Hachem, ça veut dire de quel nom de Dieu? Yudke Vavke. Ah, ça, c'est la clé de la réponse. C'est qu'en vérité, les deux roues, et ça, c'est très important à comprendre pour la suite. D'accord? Les deux roues, d'accord? Il y a une roue qui est pour Israël et l'autre roue qui est pour tout le reste. La roue d'Israël, c'est Yudke Vavke, la roue du reste, c'est Eloki. C'est ce qu'il va expliquer ici. D'accord? Comment on voit ça? On voit ça que Elohim, d'accord, comme il va expliquer ici, Elohim, ça représente tout ce qui est caché, tout ce qui est superficiel, alors que Avaye Yudke Vavke, ça représente tout ce qui est profond. Et la seule entité qui est dépendante directement du Shem Yudke Vavke, c'est le Ram Israël. Alors il va expliquer dans les mots.
Oui, parce que ça fait un peu...
Raciste.
Non, pas raciste, ça fait un peu Abu Dazara, parce qu'il y a deux entités différentes. Elohim, ça vient de Yudke Vavke.
Ah non, c'est pas deux entités différentes. C'est que...
L'origine, elle peut pas être différente. L'essence, c'est la même.
C'est comme le souffle.
Oui, mais...
C'est le même souffle.
Le souffle, c'est le même.
D'accord, mais est-ce que c'est profond ou est-ce que c'est pas profond?
Au départ, le souffle, il est forcément...
C'est le même, bien sûr, c'est le même, il y a un seul Dieu.
Oui, c'est ça.
D'accord. Mais c'est pour ça que l'exemple du souffle est très très bon. Ouais. Parce que c'est exactement le même souffle. Le même. Même en quantité, il y a peut-être plus, comme on voit. Israël par rapport aux autres, c'est rien.
Plus, c'est plus de monde.
Beaucoup plus de monde, ça n'a rien à voir. Et pourtant, on voit que Dieu s'investit beaucoup plus dans Israël. Et on voit par exemple que lorsque Israël va fauter, ça va plus le blesser entre guillemets que les autres peuples. Comment ça se fait? Tout ça, on va développer. Ouais, on commence à comprendre là.
Pourquoi le Baal HaTanya, il a pas choisi un passouk qui parlait du juif lui-même, et pas du peuple?
Parce que
le père Bet, il parlait du juif.
Ce qu'on a de particulier dans ce passouk-là, c'est que dans ce passouk-là, on parle du peuple juif lorsqu'il n'est pas sous ses meilleurs aspects. D'accord? Ses meilleurs auspices. On parle du peuple juif lorsqu'il est en faiblesse, lorsqu'il est parmi les nations, lorsqu'il est en train de s'éteindre. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que dit la Torah? Qui relève Hachem un mot. C'est-à-dire qu'apparemment, le fait qu'on appartient à Hachem Yudke Vavke, ça ne dépend pas de notre comportement. C'est un fait. Mais la reine, c'est pour ça, maintenant on va comprendre. Maintenant qu'on a expliqué qu'il y a toutes les autres créatures ont été créées par l'aspect superficiel de la Kadosh Baruch Hu. Alors que le Ham Israël a été créé par l'aspect profond de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Ham Israël a été créé par le Shem Yudke Vavke. Alors que le reste a été créé par Elohim. Il explique. Mais la reine, c'est pour ça. Nikreu Amalachim Beshem Elohim. C'est pour ça que même les anges, quand on veut appeler les anges dans le texte, comment on les appelle? On les appelle Elohim. Comment chez Katouf, comme c'est écrit, qui est Hachem Elokechem, car Hachem, Hachem qui est votre Dieu, Hachem qui est votre Elohim, attention, ou Eloke à Elohim. C'est le Dieu des dieux. C'est quoi le Dieu des dieux?
Le Dieu des anges.
D'accord? Il n'y a pas quoi, le Dieu des dieux, c'est-à-dire qu'il y a d'autres dieux?
Le Dieu des Elohim, il veut dire.
Alors comment on l'explique? C'est quoi le Dieu d'Elohim?
C'est
que Elohim ici, il faut comprendre par Elohim comme une force. C'est-à-dire qu'on parle des anges. Et les anges, on les appelle Elohim. Ça, c'est un premier exemple. D'accord? Deuxième exemple. Ça, c'est dans la paracha avec elle, le premier exemple. Deuxième exemple. C'est écrit, Odu l'Elohim à Elohim. C'est quoi la suite? Ou de l'éloquer, très bien.
Non, il y en a qui
juste avant Baruch Shem.
Ah. Odou l'éloqué à Elohim. Encore une fois. D'accord. Remercier le Dieu des dieux. C'est quoi le Dieu des dieux? Elohim, ici on parle des anges. Pourquoi on les appelle Elohim? Encore un troisième exemple, allez, avant d'expliquer. C'est écrit, Vayavou Bene Elohim Leïtetsev. Dans Iov, dans Job, c'est écrit, les enfants de Elohim. Ah, c'est encore pire là, on se croirait. Les enfants de Elohim sont venus pour se présenter. De qui on parle?
Ils ont eu des enfants avec les...
D'accord
les...
Là, on parle... Alors là, on parle de qui? On parle des anges. On parle des anges.
Pour avoir des rapports.
Les filles, pourquoi? Cheyenikat Rayuta, pourquoi on les appelle Elohim? Pourquoi on les appelle Elohim? Pas parce que Chas V'Shalom veut nous montrer qu'ils sont d'un niveau insignifiant. Non. Les filles, Cheyenikat Rayuta, parce que toute leur énergie provient de quel niveau? Elle provient uniquement d'un niveau de Chitoniyut. Chitoniyut, rappelez-vous, ça veut dire
extérieur,
superficiel. Cheoprinat, Aotiot Leva, ça veut dire qu'ils dépendent uniquement des lettres. Donc des lettres avec différentes combinaisons des dix paroles. Veshem Elohim ou Prinat Ritzoniyut Legabe Shemavaye Baruch Hu. Le nom de Elohim est considéré superficiel, ça ne veut pas dire qu'il est superficiel. C'est Shalom. C'est-à-dire qu'il est considéré superficiel par rapport à l'essence qu'on peut trouver dans le Shem Avaye. Le Shem Yud Kivavke. Aval me Nishmat Adam Sheim Prinat Psemiyut Achayut. La Neshama de l'homme, qui elle vient, elle a été, on a dit, insufflé. Donc elle vient du... Ça veut dire, c'est une image pour nous dire que elle vient du plus profond d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer comme ça. Ichelek Shem Avaye Baruch Hu. Pourquoi on l'appelle Avaye? Yud Kevavke, c'est quoi? Yud Kevavke, ça représente qui Shem Avaye More Al Plimiyut Achayut. Ça représente la profondeur de la vitalité, ce qui est de plus profond. Sheule Mala Mala Miprina Taotiyot, qui est encore beaucoup plus fort que ce qu'on peut exprimer dans des lettres. Dans des lettres. Ça, on peut expliquer dans un exemple chez les hommes. Qu'il y a des fois des choses qu'on arrive à exprimer dans des mots, et des fois des choses qui sont tellement fortes qu'on ne peut pas exprimer dans des mots. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. On va dire, oui, tu n'arrives pas à exprimer dans des mots, ça veut dire que c'est nul et non avenu. Pas du tout. Ça existe, mais c'est tellement fort que ça ne peut pas descendre dans des mots. On dit bien descendre, ça ne peut pas descendre dans des mots. D'accord? On n'arrive pas à exprimer. Parce que c'est trop fort. De la même manière. La neshama d'un juif, c'est quelque chose qui est trop fort pour être exprimé dans des mots. Parce que les mots, c'est déjà superficiel. On a déjà donné une forme à la chose. D'accord? Une structure, une forme matérielle. D'accord? Après, avec les combinaisons des mots, avec les combinaisons des lettres, on peut former différents mots. Ça, c'est déjà une structure. D'accord? Ça, c'est l'otiot, c'est déjà l'okim, c'est déjà superficiel, entre guillemets. Mais le shem avayé, c'est quelque chose qui est tellement fort qu'il ne peut même pas s'exprimer dans des mots. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre Hachem et l'okim. Et l'okim, c'est l'aspect superficiel. C'est quand ça prend une forme matérielle. D'accord, comme on l'expliquait plusieurs fois. Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva, la nature. Alors que Yud Kevavke, d'accord, on l'a dit plusieurs fois, Yud Kevavke, c'est le verbe être au passé, présent, au futur. Ça représente un aspect d'Akadosh Baruch qui ne rentre pas dans la structure du temps.
En dehors du temps et de l'espace.
Qui est en dehors du temps et de l'espace. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le Ham Israël, la Neshama d'un juif, pas le corps. Le corps, il a été créé par les lettres, comme tout le monde. Le corps d'un juif n'a pas de différence entre le corps.
Quoi que non.
D'accord, oui, d'accord. Mais extérieurement, physiquement, d'accord, extérieurement, il n'y a pas de différence. D'accord, biologiquement, il n'y a pas de différence. Même entre un homme et un animal, sans même, il n'y a pas de différence. Où se trouve la différence? La différence se trouve au niveau de la Neshama. C'est ça que ça veut dire quand on dit Kirelek Hashem Amo. Donc c'est très important. Donc ça, c'était un premier point que la Morazaken voulait expliquer. Rappelez-vous, hein, rien n'essaie d'expliquer pour comprendre ce que c'est la Teshuvah. On doit d'abord comprendre quel est le lien entre un juif et Dieu. Pour comprendre quel est le lien entre un juif et Dieu, il faut d'abord comprendre quelle est la spécificité du Ham Israël. Là, on a bien expliqué ce qu'est la spécificité du Ham Israël. La spécificité du Ham Israël, c'est que carrément, dès le départ, il a été créé différemment. D'accord? Donc on explique que la première roue était différente. Donc si la première roue est différente, automatiquement, c'est tout qui est différent après. Et même s'ils ont fauté, ça change pas. Ils sont dans un autre parcours. Ham Israël, c'est un autre parcours. C'est autre chose qui n'a rien à voir. D'accord? Là, on a expliqué la différence qu'il y a entre les Neshamot et les autres créatures, inclus, d'accord, les Malachim inclus. Et ça, rappelez-vous, l'Admor HaZaken a expliqué « Efresh Atsum Meod les Malachim ». Que dans le ciel, les Malachim sont capables de voir que c'est une différence qui est très extraordinaire. Ah, c'est vraiment, bon, on dit pas en français très extraordinaire. Ça veut dire, même en hébreu, on dit soit Atsum, soit Meod. On dit pas « Efresh Atsum Meod ». Atsum Meod, ça veut dire que vraiment, c'est une différence extraordinaire. C'est pas simplement que, bon, on a pris deux parcours, c'est... Des choses qui n'ont rien à voir. Le parcours de Ham Israël et le parcours de tout le reste de l'humanité n'ont rien à voir. Très bien.
Pourquoi l'ange il conteste Moshe alors quand il va récupérer la Torah?
Pourquoi?
L'ange, les anges ne sont pas d'accord quand Moshe Rabbeinu il veut récupérer la Torah que Hachem lui donne. Si vraiment cette différence elle est tellement évidente pour les anges.
On a expliqué à Shabbat, parce que les anges, je te voulais dire, c'est que la Torah pourrait beaucoup mieux être observée en haut qu'en bas.
Oui.
C'est-à-dire que la volonté de Dieu pourra beaucoup mieux être faite en haut qu'en bas. Et c'est là que, ça veut dire qu'en quantité, on fera beaucoup plus de mitzvot. Et c'est là que Moshe Rabbeinu nous répond, il dit que nous, ce qu'on recherche, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Bon, mais je veux pas rentrer dedans. Bon. Alors, on va essayer d'expliquer tout ça. D'accord? Donc, là, on a déjà expliqué en gros. D'accord? Bon, messieurs. Donc, si, comment on peut résumer en un mot? Allez, on va essayer de résumer en un mot. Donc, on va mettre, d'accord? On va séparer l'humanité en deux. On va séparer l'humanité en deux. D'un côté, les Neshamot Israël, d'un autre côté, tout le reste. D'accord. Les Neshamot Israël dépendent de quel nom d'Akadosh Baruch Hu, on a dit Yud Kevavke est égal à insufflé est égal à, c'est une image pour nous dire, profond. D'accord. De l'autre côté, tout le reste de l'humanité dépend du Shem Elohim. Elohim est égal à souffle de la parole. Souffle de la parole est égal à ce qui prend une structure, ce qui prend une forme. D'accord. Donc, souffle de la parole, quelqu'un qui peut parler des heures sans se fatiguer, ça veut dire superficiel.
Sauf que tu les prends une forme, mais il y a bien une différence entre les Malachim et...
Alors, voilà, de la même manière que dans des mots, après, on peut dire des bêtises, mais on peut dire des choses de kadosh. Non, mais ça change pas.
En matérialité.
Oui.
La matérialité, certes, pour les animaux, mais pas pour le... Il y a quand même un niveau différent.
Même les... La nature. D'accord. C'est comme je dis, avec les mots. On fait ce qu'on veut avec des mots. De la même manière. Avec les mots, ben, on peut créer des malachim, on peut créer du bien, on peut créer du mal, on peut créer ce que tu veux. Mais ça a déjà une structure. Une structure qui dépend du temps, de l'espace, c'est déjà une structure. Tout le monde a été créé ex nihilo. Tout a été créé ex nihilo. D'accord. Mais pourquoi il parle ici ex nihilo yashmaïn? C'est pour dire que la différence n'est pas aujourd'hui. C'est pas en fin de parcours. La différence est déjà depuis le début. Donc ça change tout. D'accord. C'est pas qu'en cours de route, je peux dire, je prends cette voie. Je peux pas. C'est deux voies complètement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout la même mission.
Excuse-moi, tout ce qui a été créé avec la parole, on peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé un être qui lui-même, en second niveau, a créé tout le... Et le...
Non.
Alors que lui a créé l'homme en direct. Non. Akadosh Baruch Hu l'a créé en direct.
Parce qu'on explique que... Pourquoi
c'est l'homme, ça pourrait laisser penser à...
Ben l'énergie.
L'Elohim qui a créé les autres est entièrement dépendant de la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Que l'énergie...
Que la nature soit, ou que les végétaux soient...
L'erreur qu'on fait ici, c'est que... Toutes les cellules qui se trouvent dans l'homme sont constamment alimentées par Akadosh Baruch Hu.
Oui.
Donc même les cellules qui ont été procréées, donc qui ont donné naissance à l'homme, constamment, ces cellules-là, c'est Akadosh Baruch Hu.
Oui, mais on dit qu'elles passent par des mondes, d'accord, et par des enchaînements.
Ça ne change pas. C'est une énergie divine quand même.
Mais bien sûr.
Très bien. Donc c'est une énergie divine, donc c'est une énergie divine qui est procréée, etc. Mais à aucun moment, la cellule obtient une indépendance. Voilà.
Je suis d'accord.
Très bien. Donc ça répond à la question.
Je n'ai pas dit ça.
Je veux dire.
Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, a créé directement l'homme, alors que pour la création, il a pu faire appel peut-être à... qui lui-même a été créé par lui-même.
Oui.
À un Elohim qui lui-même a été créé par lui-même et qui ne dépend
alors,
que de
Akadosh Baruch Hu. Ce que tu dis, c'est valable pour le corps.
Ouais. Tout ce qui est Elohim.
Oui, tout ce qui est corps. Tout ce qui est corps, il y a un système biologique qui fait que voilà, que un a créé deux, et ces deux ont créé, enfin, ces deux ont créé quatre,
etc. D'accord. Ce qu'on voit dans la nature, on peut se l'imaginer.
Bien sûr.
Pour la création de.
On peut se l'imaginer.
Pour les dix
paroles. Ça veut dire qu'un tzadik, lorsqu'il voit une cellule, il peut te retracer cette cellule jusqu'à la création.
Oui.
Ce
que tu veux dire,
moi j'ai compris ce qu'il veut dire parce qu'il veut l'expliquer de
sa façon. Est-ce qu'on peut le dire?
Expliquez-le plus directement. Est-ce que d'après ce que j'ai cru comprendre,
tu m'as dit qu'il y a deux dieux que
tu peux faire. Voilà. Mais est-ce que moi j'ai cru comprendre ça? Est-ce que on pourrait penser jusqu'au bout? C'est que je pense pas du tout, mais c'est expliqué, c'est que Hachem Yud-Kevake aurait pour pouvoir créer l'homme. La superficialité serait passée par Elohim, et donc il aurait en quelque part créé Elohim pour pouvoir créer l'homme.
C'est la question?
L'homme.
D'accord?
L'homme, sauf le juif.
Elohim,
directement.
Elohim, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'aspect superficiel. Cet aspect superficiel a créé l'homme, et donc toutes les cellules qu'il y a dans l'homme dépendent directement de Elohim. Elles sont alimentées constamment par le Shem Elohim. D'accord? Ensuite, ces cellules vont donner naissance à d'autres cellules. D'accord? Bien que dans la création, en général, on dit qu'enfin, même biologiquement, on dit que la semence doit d'abord se
pourrir,
d'accord? et c'est une fois qu'elle s'est complètement pourrie que c'est de ça que va naître quelque chose de nouveau. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail. C'est quand même une cellule. D'accord, c'est quand même une cellule qui a donné naissance à une nouvelle cellule. C'est pour ça que les enfants ressemblent aux parents. Donc effectivement, dans l'aspect humain, bien sûr que une cellule va donner naissance à une autre cellule. Donc ça veut dire que bien sûr que cette cellule-là dépend de la cellule d'avant. Voilà.
Plus que ça,
le Arizal va encore plus loin que ça. Le Arizal, il dit que dans une même famille, d'accord, quand un père va donner naissance à plusieurs enfants, l'énergie qui va passer aux autres enfants passe par le premier-né, par l'aîné. Bien que, techniquement, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a ce principe de cellule. Il dit que le premier, c'est lui qui a pris la cellule en premier, et après, c'est de cette cellule-là que vont se développer d'autres cellules. Donc, il y a un concept ici. Bien sûr, il y a un concept comme ça. Mais là, on parle par rapport à la Neshama. Et le Kim, tu as certainement raison. Mais là, on parle par rapport à la Neshama. On veut nous montrer que la Neshama, les Neshamot Israël, et de l'autre côté, le reste de l'humanité, c'est deux planètes complètement différentes. Un, c'est Shem, Yudke, Vavke. Le reste, c'est Shem Elohim. Ça, c'est de manière générale. Donc là, on a compris qu'il y a deux roues. Maintenant, on va essayer d'approfondir un peu plus de Shem Yudke, Vavke. Je me dis que Am Israël, c'est Yud Kevavke. C'est quoi Yud Kevavke? C'est ce qu'il va expliquer ici. Yud Kevavke, dans Yud Kevavke, on a quatre lettres. D'accord? Yud, He, d'accord? Enfin, Yud, je dis Ke pour pas dire He. Yud Kevavke. Bon, donc on va décortiquer encore plus pour comprendre un peu mieux, encore une fois, cette roue d'Israël. Parce que là, maintenant, premier point qu'on a expliqué, c'est que c'est deux mondes différents, deux voies différentes qui n'ont rien à voir. Très bien. Maintenant, on va décortiquer la voie Israël. Tout ça, rappelez-vous, c'est pour comprendre le lien qu'il y a entre Dieu et Israël. Ubi Urainian, l'explication du sujet. Kanoda, comme c'est connu, Mimahamar Eliyahu, de ce que Eliyahu Navi dit, ça on le retrouve dans le fameux Patach Eliyahu. D'accord ? Dans le fameux Patach Eliyahu, il dit la chose suivante. Il dit, Anthu, toi tu es Akadosh Baruch Hu. Il s'adresse à Dieu, il lui dit comme ça. Anthu, toi tu es Akadosh Baruch Hu. Dea Pikat, tu as fait sortir, donc fait sortir, c'est que tu as exprimé, Reser Tikunim. Et certikounim, ça veut dire 10 sphirotes. Vekarinan leon, donc 10 tikounim, ça veut dire 10 arrangements, donc 10 créations. Et nous, on les appelle Esser sphiran. Nous, on les appelle les 10 sphirotes. Qu'est-ce que tu fais avec ces 10 sphirotes? Ces 10 sphirotes servent à Lean agabeon pour diriger avec eux Almin Stimin. D'accord? Les mondes, donc les mondes vont là-bas
cachés.
Rouler, etc. D'accord? Parce que dans etc., qu'est-ce qu'il dit? Il dit les mondes cachés qu'on ne voit pas, ainsi que les mondes dévoilés. C'est-à-dire tout ce qui existe est alimenté par quoi? Par ces fameuses 10 sphirotes. Alors, dans ces 10 sphirotes, on va retrouver le Shemut Kivavke. Il va expliquer ici. Antrakim, Vela Bechorma Edia. Donc, ça, c'est quelques lignes qu'on retrouve encore une fois dans le Patach Eliyahu. Première mention du Patach Eliyahu, ce qu'on a dit ici, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, tu as fait sortir 10 tikkunim qu'on appelle 10 sphirotes, et avec ces 10 sphirotes, tu diriges le monde. Ça, c'est un premier point qu'on dit dans ce Patach Eliyahu. Deuxième point qu'on dit dans ce Patach Eliyahu. Antrakim, Vela Bechorma Edia. Toi, Dieu, tu es Chacham. D'accord? Mais pas avec la Chorma qu'on connaît. Ant Mevin, toi, Dieu, tu es la Bina, tu es la sagesse. Vela Bevina Yedia. Mais pas avec la sagesse qu'on connaît. Vechol Ayud Sphirot, Nichlalot Venir Mazot, Veshem Abaye Baron. Et là, maintenant, on va expliquer comment toutes les 10 Sphirot, on va résumer rapidement, toutes les 10 sphirotes sont incluses et sont on fait allusion à elles dans le nom de Yudke Vavke. Rappelez-vous, il y a 4 lettres. Yudke Vavke. Dans Yudke Vavke, on va retrouver les 10 sphirotes. On va commencer par la première lettre. Là, c'est là qu'on va expliquer. On va expliquer qu'il y a le monde c'est Shem Elohim. Et en parallèle à ça, donc le monde, on a dit c'est superficiel, et ce qui est profond, c'est les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, c'est Yudke Vavke. Quel rapport entre Yudke Vavke et les 10 sphirotes? On va commencer par la première lettre. Qui a Yud? Shehu Prinat Nekuda Levad. Encore graphiquement, comment on dessine le Yud?
Petite virgule.
Un point.
Un petit point.
Le Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. D'accord? Le Yud représente quoi? Shehu Prinat Nekuda, c'est un point. Meramezet le Chochmato Yidbarer. Le Yud fait allusion à la Chochma de Dieu. Shehi Biprinat Elem Veester, Kodem Sheba'a, Liprinat Itpashtut Vegilouy Asaga Ve'avana. C'est quoi le Yud, d'accord? Le Yud représente l'idée. Vous savez très bien qu'on peut avoir une idée, on peut avoir une idée qui va durer. Combien de temps ça dure une idée?
Une fraction de seconde. Quand?
Une fraction de seconde. Combien de temps dure le développement d'une idée? Ça peut durer des années. D'accord? Pourtant, c'est une idée. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'au moment où on a l'idée, par exemple, je suis bloqué sur un problème. Je cherche une solution à quelque chose. D'accord? Je cherche une solution, je réfléchis, et à un moment j'ai une idée. Au moment où je vois l'idée, je ne vois pas encore les détails, mais je vois l'image de ce que je veux. Par exemple, j'essaie d'imaginer comment sera ma future maison. D'accord ? Donc j'essaie d'imaginer, je réfléchis. Je réfléchis, à un certain moment, j'ai un flash, comme ça. Je vois une image. J'ai pas encore les détails, ça serait de me demander qu'est-ce que tu as vu, je suis pas capable de te dire. Mais j'ai une image à peu près de à quoi je veux que ça ressemble. Après, je vais m'asseoir, d'accord ? Je vais essayer de réfléchir à cette image. Parce que si je réfléchis pas, l'image va partir, après c'est fini, elle est perdue. C'est ça le problème. D'accord ? Donc je vais réfléchir. Je vais essayer de prendre cette chorma et de la décortiquer, de la rentrer dans les détails. Ça, c'est la différence entre le yud, d'accord ? Et le hé. Le yud, c'est quoi ? Le yud, c'est un petit point. Un petit point qui peut partir très facilement, qui peut s'envoler très rapidement, qui peut s'évaporer très rapidement. Le yud représente la chorma, le flash. Mais c'est un flash dans lequel on ne voit pas les détails. Alors si quelqu'un vient me dire qu'est-ce que tu as vu, moi je sais pas ce que j'ai vu encore. Je suis pas capable de te dire, mais j'ai une idée. D'accord ? Bon, ça, c'est un concept qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. C'est la différence d'ailleurs entre les hommes et les femmes. On dit que les hommes sont plus forts dans les idées. D'accord ? Et les femmes sont plus fortes pour trouver les failles dans les idées. Pourquoi ? Pas parce qu'elles ont envie de trouver les failles. Parce que l'homme, il voit l'idée. C'est-à-dire, la femme, souvent, elle dit, donne-moi une idée, je suis à court d'idées. Après, si tu lui donnes l'idée, elle te dit, oui, mais il y a un problème. Je dis, mais pourquoi tu as demandé l'idée ? D'accord ? Parce que c'est ça, parce qu'elle, elle trouve pas les idées. D'accord ? Donc, c'est l'homme qui a trouvé l'idée. Mais après, quand on décortique, elle dit, ah, là, il y a un problème. Tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle développe. Tout son esprit, il est fait pour développer. Yud, d'accord ? Donc, le yud, c'est le développement. Le yud, c'est le point de la chorma. D'accord ? Le point. Alors que le hé, c'est déjà le développement. Donc on a...
C'est pour te compliquer la vie, surtout.
C'est une aide contre toi, quoi.
Enfin, on n'est pas encore arrivé à la suite.
Donc
yud, hé. Yud, ké. C'est quoi le yud ? Le yud, c'est la chorma. Yud, c'est la chorma, puisque le yud est tout petit, comme l'idée. D'accord ? L'idée est toute petite, mais c'est un flash, mais c'est tout petit. Parce que c'est juste une idée qui n'est pas encore développée.
Mais qui est concentrée.
D'accord ? Très concentrée. Tout est dedans, tout était là.
Un peu comme une goutte de sperme, il y a tout le message.
Si tu veux, ouais.
Après, c'est développé.
Donc la même manière dans les sphirotes, d'accord ? La même manière dans les sphirotes, c'est quoi le yud d'Akadosh Baruch Hu ? C'est quoi la chorma d'Akadosh Baruch Hu ? La chorma d'Akadosh Baruch Hu, ça représente un aspect d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement profond, d'accord ? Qu'on n'arrive même pas à rentrer dans les détails. Et on expliquera après que le Neshamot Israël dépend du yud. Qu'après le hé, le vav, le ké, c'est déjà un développement.
On ne dit pas que le...
C'est pour ça d'ailleurs,
la mila c'est le yud.
C'est pour ça que non, la mila c'est trop chaud, la mila c'est le vav. C'est pour ça que qu'on appelle ça.
Un yud, non,
non, c'est le vav.
On n'est pas loin.
Alors le yud, on a expliqué, c'est l'essence. C'est l'essence. C'est extraordinaire.
C'est la pointe du yud, l'essence.
Ah, c'est... Alors, attends. Et après, il y a la pointe du yud. C'est quoi la pointe du yud ? Il explique entre parenthèses. C'est quoi la pointe du yud ? Parce que vous savez, dans le Sefer Torah, comment on dessine un yud ? Il n'y a pas seulement le yud. Il y a une pointe sur le yud. Après.
Il y a une pointe en haut, déjà.
Oui, il y a une pointe. Il va en pointe. Comme une antenne.
En descendant ?
Je sais pas comment il dessine. Moi, je vois comment c'est dessiné, en tout cas. Il y a une... Il y a une antenne.
Non.
À part le code. Bon, peu importe comment il écrit. En tout cas, il y a une antenne. C'est quoi l'antenne ? Alors, je finis ça. De toute façon, on reprendra ça la semaine prochaine. Yud qui va faire en mais juste, je finis encore 4 lignes. Ve'akot shel ha'yud, la pointe qu'il y a sur le yud, romez liprinat ratson ha'elyon shel mala mala mimadregat rochma prinat rochma ila kanona. Là, il explique encore, il y a encore plus fort, quelque chose de plus fort que ça. Avant d'avoir le flash, avant d'avoir donc l'image de ce que je veux, il y a la volonté. C'est quoi la volonté ? C'est quand j'ai la volonté que je veux trouver la solution. Et en vérité, c'est dans cette volonté que se cachait déjà la solution. Ça, c'est la pointe. Dans cette volonté, se cachait déjà tout. Et quand tu forces dans la volonté, c'est là que tu vas avoir l'idée qui, elle, donnera naissance après au développement, qui, elle, après, donnera naissance au sentiment, etc. Et à l'application.
Dans l'engagement, on dit qu'il veut, peut.
Ça veut dire que tout vient, tout a démarré d'où ? C'est quoi la première roue ? La première roue, c'est quoi ? C'est la volonté. D'accord, attends.
On excelle pas dans tout.
Deux secondes, excuse-moi. On va aller jusqu'au bout. D'accord ? C'est la volonté. Et là, on expliquera après que dans tout le développement du monde, Israël est lié à quoi ? Israël est lié à la Chorma, et plus particulièrement, de quelle partie de la Chorma ? Dans le code du Yud, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans la partie, dans la partie volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Israël se trouve dans la partie volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est tellement profond que c'est même pas encore dans le stade du développement. C'est quelque chose qui est très 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 profond. La volonté, c'est ce qu'il y a de plus profond chez un homme. Que des fois, il n'arrive même pas à exprimer. Il y a des gens qui ont des volontés, mais qui n'arrivent même pas à l'exprimer en idée. Il y a des gens qui ont que la volonté, qui n'arrivent pas à exprimer en idée. Après, il y a des gens qui vont réussir à réfléchir, d'accord, pour essayer de transformer la volonté en idée. Il y en a qui vont aller encore plus loin, qui vont transformer l'idée en développement, ils vont développer l'idée. Il y en a qui vont aller encore plus loin, c'est qu'une fois qu'ils ont développé l'idée, ils vont la mettre en pratique. D'accord, jusqu'au bout. Jusqu'à Malchut, ça veut dire jusqu'à qu'ils ont arrivé à la mise en pratique complète. Mais il y a tout un enchaînement. Yudke Vavke. Depuis la pointe du Yud jusqu'en bas. D'accord. Là, bon, je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie de bâcler. Je pense que c'est un point très important. On reprendra la semaine prochaine Bezrat Hashem. D'accord. Yudke Vavke. Mais déjà, au moins, ce qu'on a pu faire cette semaine, c'est qu'on a pu expliquer que Israël et le reste du monde, le reste de l'humanité, c'est deux roues différentes. D'accord. Donc maintenant qu'on a compris que c'est deux roues différentes, on va pouvoir se focaliser tranquillement sur Israël. C'est deux roues différentes. La roue d'Israël est basée sur Yudke Vavke. Dans Yud Kevavke, on a un développement, on a une structure qui est très très importante, qu'on va retrouver dans notre vie, cette structure. Cette structure, Bezrat Hashem, on la développera, mais en tout cas, on a déjà expliqué en gros, c'est la volonté, l'idée, le développement, la mise en pratique, et Malchut, c'est quand on peut dire qu'on a fini le projet. D'accord ? On développera tout ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Bon, on essaiera de développer encore plus cette roue. Mais vous comprenez que maintenant, on comprend qu'en vérité, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre ce que c'est la Tchouva. Tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe derrière, quel est le lien entre un juif et Dieu, et comment ce lien peut être affecté, on peut pas comprendre qu'est-ce qu'on a fait quand on fait une avéra quand on comprend pas quel est le lien entre un juif et Kadosh Baruch Hu. Donc d'abord, pendant plusieurs semaines, on va essayer de comprendre quel est ce lien. Après seulement, on va comprendre comment quand on fait une mitzvah, ça aide, ça fait tourner les roues, et comment quand on fait une avéra, ça peut casser le système. Et comment on peut réparer tout ça en faisant tchouva. D'accord ? Mais là, pour l'instant, on a expliqué l'élément initial. Parce qu'une fois qu'on comprend d'où les choses viennent, après c'est plus facile de comprendre la suite.
Ça
va être là. Est-ce qu'il y a des questions ?
Non, très très clair.
On va voir. Je donne pas d'éléments encore. C'est Bina et Malchut, mais on va expliquer après.
On n'a pas répondu aux questions.